Laudetur Jesus Christus.
Millions de doses de vaccins contre la Covid pour les pays dans le besoin, c'est la promesse hier des États-Unis. Mais au-delà des mots, les vaccins peinent à arriver aux pays les plus pauvres. L'ONG Amnesty International dénonce une crise des inégalités, accentuée, nous l'entendrons, par les groupes pharmaceutiques. En Libye, l'élection présidentielle du 24 décembre se profile, les différents camps se préparent, non sans fragiliser le délicat équilibre politique actuel. La lave du volcan Cumbrevieja continue son avancée aux Canaries, avalant tout sur son passage. Les dégâts matériels sont importants, certains habitants ont tout perdu. Dans ce journal également, direction le Chili. Le top départ de la campagne présidentielle a été donné hier. Et enfin, dans notre dossier ce matin, retour sur un fléau qui touche le monde entier, l'obésité. Et le continent africain n'est pas épargné, notamment dans l'Ouest, par exemple au Ghana. Une personne sur deux vivant en ville est considérée obèse. Alors comment expliquer cette tendance? On en parle avec l'épidémiologiste Yves Martin Prével.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Les États-Unis se veulent figure de proue dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le président américain annonce doubler le nombre de doses promises aux pays les plus pauvres, soit 1 milliard au total. L'Amérique sera l'arsenal de vaccins du monde, promet Joe Biden, qui veut tenir un objectif très ambitieux. 70% de la population de chaque pays sera vaccinée d'ici un an. Mais au-delà des promesses des différents États occidentaux, les pays les moins développés ont jusqu'ici très peu accès aux vaccins. En Côte d'Ivoire, par exemple, 1% de la population est vaccinée, 0,6% en Tanzanie comme au Libéria, 0,2% en Haïti ou au Turkménistan. Et les doses promises via le mécanisme COVAX arrivent au compte-gouttes, voire n'arrivent pas. Dans un rapport publié hier, l'ONG Amnesty International dénonce la politique des grands laboratoires en fixant des prix élevés et en refusant la levée des brevets. AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax et Pfizer alimentent ainsi une crise des droits humains sans précédent. C'est ce que nous explique Cécile Coudriou, présidente d'Amnesty International France.
Selon l'expression consacrée « business as usual », nous paraît une posture absolument incompréhensible et même inadmissible, surtout dans la mesure où ce sont des fonds publics qui ont aussi permis cette innovation et cette réactivité pour produire ce vaccin. Et qu'un an plus tard, après avoir fait tant de profits par ailleurs, les entreprises seraient quand même bien inspirées de enfin partager, de faire preuve de solidarité internationale, de s'engager dans une coopération en partageant leur savoir, en partageant leurs connaissances et leurs propriétés intellectuelles donc sur ces technologies pour permettre une meilleure répartition de ces doses de vaccins à travers le monde. Nous avons intitulé ce rapport « Une double dose d'inégalité ». C'est véritablement une politique tout à fait inéquitable et insupportable. Et ces entreprises, évidemment, pourraient très bien faire autrement. Et enfin, les États des pays les plus riches ont déjà accaparé en fait 500 millions de doses de trop. C'est un surplus qu'il serait bon de reverser aussitôt au pot commun, si j'ose dire, de COVAX, de façon là aussi à les redistribuer de manière plus équitable.
Voilà, Cécile Coudriou, présidente de l'antenne française d'Amnesty International. Après la crise des sous-marins entre la France et les États-Unis, coup de fil hier entre les présidents français et américains. Ils ont promis de se rencontrer rapidement et de lancer plus de consultations entre eux afin de restaurer la confiance écornée après la mise en place d'un pacte stratégique dans l'Indo-Pacifique au détriment de la France. Le président tunisien renforce son pouvoir. Kais Saied va désormais pouvoir diriger par décret et ainsi se substituer au Parlement et au gouvernement. Une mesure annoncée dans la foulée de la réforme de la constitution tunisienne. L'opposition dénonce une dérive du pouvoir présidentiel. La Libye rebascule dans l'incertitude politique alors que l'élection présidentielle du 24 décembre apparaît comme l'objectif ultime de ces derniers mois. Plusieurs événements semblent la rendre de plus en plus hypothétique. Parmi eux, l'aggravation récente des tensions entre les deux camps rivaux, dont la motion de censure contre le gouvernement votée mardi par le Parlement. Et le lendemain, hier, donc, le maréchal Khalifa Haftar a quitté ses fonctions militaires, Delphine Allaire, pour finalement faire un pas de plus vers une candidature.
C'est bien ça.
cela, Marine, le chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne se retire provisoirement avant de se présenter au scrutin du 24 décembre. C'est le général Al-Nadouri qui devient commandant général à la place du maréchal de 77 ans, futur candidat donc à la présidence libyenne. Il y a deux semaines déjà, l'homme fort de l'Est libyen préparait le terrain sur le front législatif. Le Parlement, dirigé par un de ses proches, ratifiait sans vote une loi électorale controversée permettant à Khalifa Haftar de se présenter puis de retrouver son poste militaire s'il n'était pas élu. Premier élément de discorde donc avec le camp de l'Ouest libyen. Le second, c'est cette motion de censure votée par le Parlement basée dans l'Est du pays contre le gouvernement d'Abdelhamid Debba qui lui siège à Tripoli dans l'Ouest. En dépit de cette censure, le cabinet actuel ne sera pas remplacé mais devient un gouvernement chargé des affaires courantes, largement affaibli donc, renforçant la confusion et l'incertitude à 3 mois d'une échéance électorale cruciale.
Merci Delphine. Delphine Allaire, et notons que dans la perspective du vote, la France accueillera une conférence internationale sur la Libye. Elle se tiendra à Paris le 12 novembre. Direction maintenant les Canaries. La coulée de lave du volcan, entrée en éruption dimanche sur l'île de la Palma, n'avance plus que lentement, à tel point qu'il n'est plus certain qu'elle atteigne l'océan Atlantique. Mais les dégâts qu'a provoqué cette coulée de lave sont considérables. Les explications de Louis Marsens.
La lave coule beaucoup moins vite, mais elle n'a rien perdu de sa capacité de destruction. 320 maisons ou bâtiments ont été ensevelis. 154 hectares ont disparu. Les voisins du volcan viennent à la hâte récupérer des affaires à leur domicile avant l'arrivée de la lave. La gendarmerie ne leur donne que 15 minutes pour prendre ce qui leur semble essentiel. Carrel, lui, n'a eu le temps de rien récupérer. Il est hollandais, il vit dans l'île depuis 4 ans et sa maison a disparu.
Mardi matin, on a vu que notre maison était perdue, comme plein d'autres, et la situation est vraiment proche d'une catastrophe. Il y a un petit village, ça va être perdu totalement, l'église, la salle des fêtes, l'école, le petit supermarché, la pharmacie.
Le sentiment d'impuissance domine chez les habitants face à l'avancée de la lave. On ne peut rien faire, a déclaré le président des îles Canaries. En fait, c'est peut-être la lave qui s'arrêtera d'elle-même. Son ralentissement, déjà très marqué, s'est en tout cas encore accentué. Personne ne sait si cette lave arrivera finalement jusqu'à la mer. L'éruption du volcan pourrait durer encore plusieurs mois. Barcelone, Louis Marsens pour Radio Vatican.
Les combats continuent en Birmanie après la prise du pouvoir par les militaires en février dernier, notamment dans l'ouest du pays, où des affrontements entre l'armée et les opposants à la junte militaire se sont multipliés ces derniers jours. Des maisons de civils ont été bombardées et de nombreux Birmans sont condamnés à s'exiler. Au Chili, le top départ pour la campagne présidentielle a été donné hier. Le vote aura lieu fin novembre et au total, 6 hommes et une femme s'affrontent. À 2 mois de l'élection, les sondages placent en tête un candidat de gauche, suivi de très près par un candidat de droite. Mais rien n'est joué puisque selon une étude récente, la moitié de la population est encore indécise. Les explications à Santiago de Neila de Rouané.
Gabriel Boric, député de gauche, ex-leader des manifestations étudiantes, à 35 ans, il est le plus jeune candidat de l'histoire du pays à se présenter au poste de président de la République. C'est lui qui, pour l'instant, est en tête dans les sondages, mais avec seulement 2 points d'avance sur son rival de droite, Sébastien Sichel. Lui est avocat, ancien ministre et a provoqué la surprise lors de la primaire de droite en juillet dernier. Mais ce qui marque le plus dans ces sondages, c'est l'indécision. 50% de la population ne sait toujours pas pour qui voter, c'est 2 fois plus que lors de la dernière élection présidentielle. Depuis la révolte sociale qui a éclaté il y a 2 ans, la classe politique chilienne souffre d'une crise de légitimité et la population lui a largement manifesté son manque de confiance. Si pour le moment donc rien n'est joué, une chose est sûre, celui ou celle qui remportera l'élection présidentielle devra continuer à soutenir le projet de rédaction de la nouvelle constitution, un processus né des manifestations de 2019 et qui a pour objectif de refonder les bases de la société chilienne. À Santiago, Naila de Rouané pour Radio Vatican.
Avant de passer à notre dossier, un rendez-vous aujourd'hui à 17h à la Basilique Vaticane. Une messe avec les participants de l'Assemblée plénière du CCE, le Conseil des Conférences Épiscopales Européennes. Une messe célébrée par le pape François. Elle sera à suivre en direct sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook. Thank you. Aujourd'hui à New York, les Nations Unies se penchent sur les systèmes alimentaires. Le but de ce sommet, transformer ces systèmes parfois dysfonctionnels en mobilisant les différents pays et les secteurs du privé. Un des problèmes engendrés par de mauvais systèmes alimentaires est notamment l'obésité, un phénomène qui est mondial et le continent africain n'y échappe pas. L'obésité est de plus en plus présente en Afrique. En effet, selon une étude de l'OCDE, la moitié des Ghanéens, par exemple, vivant en ville, seraient désormais considérés comme trop gros, tout comme un tiers des personnes au Bénin, au Togo ou encore en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, c'est un quart de la population en général qui est considérée en surpoids. L'obésité, comme sur le reste des continents, devient donc un défi de santé publique et commence à peser sur l'économie africaine. Alors, quelles sont les causes de l'obésité sur ce continent en développement? On en parle ce matin avec Yves Martin-Prével. Il est épidémiologiste, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement.
Dans le monde entier, l'essentiel de l'obésité est lié aux mêmes facteurs. Et ces facteurs sont en gros de deux types. Il y a évidemment le type d'alimentation que l'on consomme. Le deuxième facteur, c'est celui des styles de vie, modes de vie, qui changent beaucoup et qui changent avec le temps et qui ont changé brutalement en Afrique. Alors, ce qui peut être spécifique à l'Afrique ou à d'autres pays d'ailleurs en développement, c'est la rapidité avec laquelle les modes de vie ont changé. L'urbanisation a été beaucoup plus rapide, ça c'est sûr. Le développement économique, parce qu'on parle toujours de pays pauvres, entre guillemets, mais il y a un développement économique quand même dans ces pays, et souvent quand même assez important. Et puis cette urbanisation donc qui change totalement le mode de vie et qui fait qu'on a beaucoup moins d'activité physique en ville que l'on en a quand on est à la campagne.
Quels sont les facteurs qui font ces différences entre la ville et la campagne ?
Quand on est agriculteur, évidemment, et qu'on a un travail agricole fatigant, évidemment, on consomme beaucoup d'énergie sur son travail, alors que quand on est un peu plus sédentaire, quand on arrive aussi dans des milieux qui sont plus pollués, et là, on va arriver sur les questions de qualité de l'alimentation, parce que la pollution influence la qualité de l'alimentation, on arrive finalement à avoir moins d'activité physique, une alimentation qui est plus disponible, qui est plus variée, donc qui devrait être de meilleure qualité, avec une plus grande variété, mais qui en fait est aussi plus variée en type d'aliments et notamment en niveau de transformation des aliments.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce point ? Finalement, comme partout, les aliments sont de plus en plus transformés et c'est cela qui est notamment en cause de cette obésité ?
Plus on se rapproche des milieux urbains et plus il y a des niveaux de transformation des aliments qui sont faits industriellement et ça génère, alors la transformation des aliments en soi industrielle, que le blé soit transformé en farine, etc., c'est bien, mais par exemple quand cette farine est beaucoup trop raffinée, le blé qui était plutôt des glucides lents deviennent des glucides qu'on appelle rapides, donc plus proches du sucre. On favorise un petit peu l'obésité et aussi un petit peu l'arrivée des diabètes pour plus tard.
Comment expliquer la prédominance finalement des aliments transformés au mépris de la nourriture traditionnelle ?
Uniquement parce que c'est plus facile, plus pratique et puis ça a un côté aussi de modernité. Si on prend des exemples, même sur des choses qui sont, enfin, qu'on pourrait dire pas très très importantes dans la ration alimentaire, qui sont les épices, on voit très très bien qu'on a remplacé des épices traditionnelles par des bouillons cubes, vous voyez, ce qu'on appelle beaucoup là-bas l'arôme magie en Afrique, qui sont des choses qui sont en fait industrialisées et qui sont pas très bonnes pour la santé parce que avec beaucoup de sel. On a beaucoup de pain, même en milieu rural. On a beaucoup de boîtes de conserve, on a beaucoup de mayonnaise. Autant ça a évidemment débuté par les villes et par les classes les plus aisées parce qu'il y a eu très vite aussi l'idée de manger un petit peu comme les occidentaux, donc c'est une espèce d'occidentalisation des régimes alimentaires, très poussée par l'industrie agroalimentaire elle-même. On a coutume de dire qu'il est beaucoup plus facile de trouver un soda, dont je dirais pas la marque ici, dans n'importe quel coin reculé d'Afrique, que de trouver une bouteille d'eau minérale.
Voilà, l'épidémiologiste Yves Martin-Prével, directeur de recherche à l'IRD, était ce matin notre invité. «
Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 13h. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde sur notre site internet. Très bonne journée à toutes et à tous.